Alors Marie, je crois que je lui ai dit à la dernière minute, c'est-à-dire tout à l'heure, j'ai changé mon verset biblique. Je voulais vous parler de Matthieu 16, 24. Et puis ce matin, j'ai perçu autrement les choses. Donc j'espère que le changement est d'actualité. Je vais juste courtement me présenter. Donc je m'appelle Thierry Cuny et vous allez vite voir que je ne suis pas vaudois, ni même suisse. Vu le débit de parole, je suis un bon français de la banlieue parisienne, né à Choisy-le-Roi. Waouh, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Je suis né dans une ville qui s'appelle Choisy-le-Roi. Je suis pas issu d'une famille chrétienne, je suis devenu chrétien à l'âge de 24 ans, et c'est à 22 ans que j'ai entendu pour la première fois parler de Jésus, fils de Dieu, le ressuscité. Alors je vais pas vous donner mon témoignage ce matin, je suis marié, cette année j'ai fêté 60 ans, donc je suis passé dans une autre dizaine, et il y a quelques jours on a fêté 30 ans de mariage, mon épouse étant originaire du Burkina Faso. Elle s'appelle Fatih, et elle était musulmane, donc d'une famille musulmane, mais elle s'est convertie avant moi. Je ne suis pas l'auteur de sa conversion, elle était déjà bien en Jésus avant que je la connaisse. Avec Jeunesse sans mission, on s'est rencontrés en 1991 au Togo, alors que je faisais mon école de disciples. Voilà, comme ça, on a 4 enfants. Ça, c'est pas aléatoire, ça fait partie de la famille. Donc, un garçon et 3 filles de 28, 27 et 25 et 23 ans. Voilà, comme ça, oui, oui, voilà. On a voulu faire un peu la tribu, hein, quand même. Le verset sur lequel je vais m'appuyer ce matin, je vous le cite, ce n'est donc pas Matthieu 16, 24. Je pense que vous connaissez très bien ce verset, Matthieu 16, 24, qui dit, c'est Jésus qui déclare à ses disciples, qui dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Hein. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais ce matin, j'ai perçu quelque chose d'autre pour vous. Alors, c'est pas que Dieu aurait changé d'avis, mais nous, on a le bon et Dieu a le meilleur. Donc on prépare le bon, mais Dieu a le meilleur. J'aimerais aussi faire un retour, un petit feedback en arrière. Je suis venu, ça fait la troisième fois que je viens chez vous. La première fois que je suis venu, j'ai discuté un peu avec Jean-Luc et Laurence. C'était au temps de ce cher pasteur que j'aime beaucoup, Claude Bécher. Donc ça remonte à quelques années, que j'ai invité quand j'étais pasteur à Launay. J'ai été 12 ans pasteur. Alors j'ai été, je dis pas qu'on n'est plus, hein. C'est un appel que Dieu donne et je crois qu'on le garde à vie, mais on le vit autrement. Je ne suis plus chargé d'église, mais j'ai été 8 ans pasteur à Launay. Donc c'est Marc Gallet, un de vos anciens pasteurs, qui m'a succédé, et puis 4 ans à la chapelle évangélique de Clarens. Et donc Claude Bécher, c'est aussi quelqu'un que j'ai invité souvent à prêcher, mais même dans nos retraites d'église, je me rappelle, vraiment un homme merveilleux. J'espère qu'il va bien, en tout cas je le souhaite. Et puis, je suis venu pour la deuxième fois dans un temps plus particulier. C'est ce que je disais à Jean-Luc, un temps où l'Église vivait une crise. Je me rappelle très bien, le président a dit, c'est la dernière fois que je préside, et celle qui était à la louange, ça m'est resté gravé. Elle a dit, il y a 20 minutes, je ne savais pas si j'allais conduire encore la louange. Mais ce matin, je ne viens pas raviver les anciennes histoires de l'Église, parce que c'est du passé. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle église qui a redémarré depuis déjà un certain temps. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Et c'est pour ça que j'ai changé un petit peu, quelque part, de direction. Non pas que le message d'avant aurait été un message de découragement, mais il me semblait qu'il était important de pouvoir vous encourager personnellement en tant que communauté et en tant qu'individu. Et j'introduirai avec ce mot, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, un mot clé est ressorti depuis bien des années et bien des mois, c'est le mot crise. Nous avons entendu parler, et nous en parlons encore, peut-être un peu plus discrètement maintenant, mais à l'époque du Covid, c'était le mot phare, pénurie et crise. C'était deux mots qu'on entendait beaucoup dans les médias et bien sûr sur les réseaux sociaux et autres. Nous avons parlé de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale, de crise écologique, de crise migratoire. Maintenant, c'est plutôt celui-là qui est vraiment sur lequel les autorités européennes bossent. Et peut-être pour nous, chrétiens, crise de foi. Nombreux sont ceux et celles qui ne sont pas rassurés par la tournure des événements. Je ne sais pas comment vous vivez tout ce qui se passe dans le monde, mais nous qui sommes à Porte Ouverte, nous avons encore en plus des éléments, je dirais, de type sécurité sur ce qui se passe dans le monde au niveau des chrétiens et des choses qu'on ne peut pas vous dire parce qu'on a des niveaux de sécurité. Donc ce matin, je vais réserver certaines choses que je ne pourrais pas vous dire, mais dans lesquelles nous sommes au courant. Alors peut-être que tout ce qui se passe autour de nous, guerre, complot, famine, corruption, inflation, pouvoir d'achat, déforestation, climat, écologie et bien d'autres choses peuvent nous inquiéter, nous appauvrir et nous fragiliser. Combien sont ceux et celles qui sont laissés pour compte à cause de cette situation de crise économique et doivent se résigner à frapper aux associations? Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière à Genève, il y avait quelques dizaines de personnes et maintenant c'est quelques centaines de personnes. On voit les Restos du Cœur qui ont eu un trou de 35 millions qu'il a fallu colmater et malgré cela, ils sont obligés de ne distribuer que 6 repas au lieu de 9 parce que ils n'ont plus assez et trop de demandes. Alors, peut-être deux questions pourraient nous être posées ce matin. Passons-nous par une crise personnellement? Et comment la traversons-nous? Seuls ou ensemble? Et je laisserai cette parole de Pierre dans 1 Pierre 3,8, cette référence biblique qui nous dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » 1 Pierre 3,8. Et je vous donnerai 6 attitudes à adopter pour une équipe efficace. Et ensuite, si j'arrive à aller jusqu'au bout, 4 éléments importants à cultiver pour garder cette efficacité et cette perspicacité. Parce que je vous prends comme une équipe ce matin. Vous êtes une église, oui, une communauté, certes, mais vous êtes une famille avant toute chose. Alors, nous allons débuter par la première force qui peut être pour une équipe qui gagne, une équipe qui soit efficace. Alors la force d'une équipe qui gagne dépend dans une église, un groupe de maison, une famille, de la qualité des relations. Alors ce n'est pas un scoop, vous le savez très bien. De l'amour, du respect et de l'engagement que les uns et les autres, nous avons les uns envers les autres. Cela doit être au cœur de la démarche de départ pour vivre une marche commune. Avoir ce respect de l'autre, cet amour de l'autre et cet engagement vis-à-vis de l'autre. Pour devenir une équipe gagnante et efficace, nous avons besoin de chacun. Chacun est important. Il n'y a pas une élite et ceux qui suivent. Alors oui, il y a des leaders et il y a des suiveurs, mais chacun est important dans l'église. Et il faut que vous le sachiez ce matin. Tu ne peux pas être remplacé. Tu es unique. Tu es l'oreille, tu es peut-être l'œil, tu es peut-être la main, le pied, peu importe. Mais personne ne peut te remplacer là où tu es, dans ta fonction, dans qui tu es. Développer un esprit d'équipe, cela prend du temps. Et je dirais même un certain temps, et certains diront difficile de le vivre en l'espace de quelques jours. C'est quelque chose qui doit être dans le temps, dans la durabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement en quelques jours qu'on peut avoir une équipe efficace. Ça se construit, ça s'établit, ça s'édifie, ça se fortifie. Jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Oui, c'est vrai, mais c'est possible lorsque nous respectons quelques bonnes règles d'usage. La deuxième chose, c'est que la force d'une équipe qui gagne, c'est qu'elle est toujours prête à écouter, à apprendre, à se laisser interpeller, à se remettre en question et parfois même à changer son fusil d'épaule. Je l'ai fait ce matin, j'ai changé ma prédication ce matin. Non pas parce que l'autre était mauvaise, non pas parce qu'elle était décourageante, mais il m'a semblé que le Seigneur me disait « Parle-leur, encourage-les et fais que cette équipe puisse se fortifier ce matin et continue d'aller de l'avant. » Peu importe le nombre que vous êtes, c'est la qualité qui est importante, la qualité de nos relations. Et c'est ça que Dieu veut construire en vous. Peu importe l'histoire, ce qui s'est passé. Oui, ça s'est passé. Mais il y a toujours un recommencement avec Dieu. Il y a un commencement, mais il y a aussi un recommencement. Donc la force d'une équipe, c'est qu'elle est prête à écouter, à apprendre, à se laisser interpeller et à changer parfois son fusil d'épaule. La troisième chose, c'est que la force d'une équipe qui gagne, c'est qu'elle fait preuve de soumission et d'intersoumission. On peut être leader. Je suis leader quelque part dans ce que je travaille, mais j'ai aussi une équipe avec moi et j'ai un responsable et j'ai un directeur. Et je me soumets à ce leadership, même si moi-même, je vis une certaine forme de leadership. Il y a une intersoumission. Et quand on parle d'intersoumission, on parle d'écoute, de bienveillance. Elle garde une attitude ouverte, cette équipe perspicace bienveillante, soumise à l'intérêt commun, sans oublier qu'au centre de cet intérêt commun est plantée la croix. C'est le Christ qui doit être notre centre d'intérêt. Et Marie l'a dit tout à l'heure dans la prière. On peut tout faire, on peut faire plein de choses, mais si le Christ n'est pas au centre, cela ne va pas porter du fruit. Parce que même lui le dit. Si vous voulez porter beaucoup de fruits et ainsi glorifier mon Père, il faut être en moi et moi en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je rajouterai non pas la parole, mais personnellement, je dis sans toi, je ne veux rien faire. Parce que sans toi, ce ne sera qu'une œuvre, mais pas une œuvre préparée d'avance afin qu'on la pratique. Si belle soit-elle, mais si tu n'es pas au cœur de cette œuvre, elle est vouée à l'échec. C'est le Christ qui doit être notre centre d'intérêt premier, pas le projet, ni le camp, ni l'événement, ni la mission ou l'activité, quelle que soit l'activité. Le Christ au centre. La force d'une équipe qui gagne, c'est qu'elle est efficace et perspicace. C'est une équipe qui ne craint pas de prendre des risques, de sortir quelque part un peu de sa zone de confort ou de l'étendre. Des fois, on n'a pas besoin de sortir de notre zone de confort, mais simplement de l'élargir à d'autres. Inviter d'autres à y entrer, ou d'autres projets, ou d'autres paroles que le Seigneur voudrait que nous pratiquions. Alors sortir de sa zone de confort ou l'étendre, tout en restant prudent et en mode veille. Et j'aimerais vous dire dans ces temps que nous vivons, veillons, soyons vigilants, écoutons le Seigneur et l'Esprit qui est là pour nous dire ce qui se passe. Où en sommes-nous ? Oui, Jésus revient bientôt. Alors plutôt que lorsque Paul en parlait, ou Pierre, Jésus, son retour est proche. Préparons-nous. Soyons veillants et vigilants. C'est important. C'est une équipe qui prend le temps dans la prière et l'écoute du Saint-Esprit. La prière, mes amis, c'est tellement important pour l'Église persécutée. J'ai fait quelques voyages récemment pour Portes Ouvertes, 2-3, ça fait 2 ans que j'y suis. J'en ai fait d'autres pour Jeunesse en Mission, pour M-Part, pour Partage la Vie, à titre personnel aussi, j'ai pas mal voyagé. Mais quand on rencontre l'Église persécutée, leur demande, leur unique demande, prier. Prier pour que nous puissions tenir face à l'oppression. Et ils en ont toutes sortes d'oppressions, je peux vous le dire. Prier pour que nous puissions affermir notre foi, qu'elle continue à grandir, à s'établir, à se développer. Et la troisième chose, qui est incroyable, c'est prier pour que l'Évangile continue de se répandre. Malgré la difficulté, malgré l'épreuve, malgré l'oppression, malgré les menaces, la torture, la prison ou la mort. C'est juste incroyable quand on les entend. La force d'une équipe qui gagne, c'est son ouverture au changement, sa disposition intérieure à la bonne nouvelle dans un monde sans cesse en mouvement et en mutation. L'Évangile ne change pas et son contenu non plus. Mais pour l'annoncer dans le monde, il faut sans cesse changer de méthode et s'adapter à des nouvelles situations pour atteindre les hommes et les femmes de ce siècle. Elle est consciente de cela, l'équipe efficace et perspicace. Elle y travaille pour être toujours pertinente dans une société qui a mis pourtant Dieu de côté. Et pourtant, si cette société savait, quelle grâce de le connaître, de le vivre. Quel Dieu incroyable! La force d'une équipe qui gagne, c'est qu'elle a une sagesse spirituelle, reconnue, appréciée, validée par ceux et celles qui l'entourent. Et j'espère que vous validez cette sagesse au milieu de vous, autour de vos responsables, conseils, pasteurs. On pense à Vincenzo, que je connais aussi, je l'ai connu quand il était stagiaire à l'Oasis avec Claude Bordigoni. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Priez pour les responsables. Prions pour ceux qui sont en charge de l'Église, pour ceux qui ont une mission, un leadership, mais priez pour vous les uns les autres, parce que vous êtes aussi en mission. Là où vous travaillez, même si vous êtes à la retraite, J'ai vu que les retraités sont souvent plus actifs que lorsqu'ils étaient actifs. J'en connais plusieurs, en tout cas à Launay et à Clarens, où j'ai été pasteur. Ils travaillent encore plus que quand ils travaillaient dans le monde. Donc c'est incroyable, ces retraités, ils sont incroyables. Priez les uns pour les autres. Portez-vous, supportez-vous, encouragez-vous. C'est important pour que cette équipe soit gagnante, qu'elle soit perspicace et efficace. Elle respire la confiance et la paix, transmet la sérénité. Elle soupire après plus de communion avec son maître. Elle donne envie et elle a du goût à l'ouvrage. Waouh ! Ce qui donne de la légitimité, de la force à une telle équipe, c'est la vie transformée par l'esprit de ses équipiers. C'est un parcours de transformation. Je ne sais pas si vous connaissez ce parcours que la FRAE propose, transformation. Transformé par l'action de l'esprit. Lorsque ses équipiers sont transformés par l'action de l'esprit, c'est une équipe performante. On ne cherche pas à être au top, c'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Je suis en train de dire qu'une équipe gagnante, c'est une équipe qui continue à vivre et à faire vibrer les membres de l'Église, qui croit à ce Seigneur et qui se met en action. Cinq éléments, j'ai encore cinq minutes, magnifique. Cinq éléments importants à cultiver et nous revenons dans notre verset que je vous ai cité, que je recite maintenant, qui est « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Le petit mot « tous » n'est pas certain, quelques-uns, mais nous sommes tous concernés. Même pensée. La question qui nous est posée ce matin, poursuivons-nous le même but ici, dans cette église ? Sommes-nous en accord avec les projets qui nous sont proposés ? Êtes-vous dans un commun accord avec tout ce que vous vivez ensemble, dans cette communauté ? Êtes-vous OK les uns avec les autres ? Pas de vieux restes ou de contentieux qui ne seraient pas mis à jour ou sous le tapis ? Ça, c'est important, les amis. Pouvons exprimer peut-être nos différences, nos divergences parfois, mais dans la paix, la bienveillance, dans un but de construire. Vous savez, il est très facile de détruire quelqu'un et une situation. En quelques secondes, c'est très facile. Mais construire quelque chose, ça prend du temps. Je vous encourage à faire partie de ces hommes et de ces femmes qui n'ont qu'un but, la construction du royaume de Dieu au travers de cette église, ici dans ce quartier. Parce que ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Et c'est pas toujours facile. Mais c'est là où Dieu nous a appelés à construire ensemble. On s'est pas choisi. Dieu nous a mis ensemble. J'ai pas choisi mon père, ma mère et mes deux sœurs. Et pourtant j'y suis. Le petit dernier. Et je suis le seul converti, le seul chrétien. Ma femme, elle a vécu quelque chose, un miracle. 4 ans, elle a été chassée. Quand elle a annoncé à son père, j'ai rencontré Jésus. Son père lui a dit, c'est Jésus ou la famille. Elle a dit, c'est Jésus. 4 ans, elle a été bannie de sa famille. Et maintenant, ils sont 6 à être chrétiens. Elle a ouvert le chemin, la brèche. Pourquoi ? Parce qu'elle a tenu ferme avec ce Jésus. Et elle n'avait que 13-14 ans. Dans un contexte musulman, une femme, une jeune fille même, ça n'a pas été toujours facile pour elle. Mais elle s'en est sortie. Elle est superintendante, je l'appelle comme ça, à Bethel. Vous savez la maison Bethel. Depuis 13 ans, depuis le début, elle est là-bas. C'est un pilier, j'ose le dire. Parce que je le sais et je crois que c'est vrai. Écoutez bien, j'étaye ma pensée avec une parole. Philippiens 4, 8, 9. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation. Que tout ce qui est vertueux et mérite louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu de qui donne la paix sera avec vous. Même sentiment, deuxième point, cette sensibilité aux différents besoins des autres. Est-ce que je suis sensible aux besoins des autres ? Hier, j'étais dans une église de la FRAE. Le pasteur passe par une épreuve terrible. Nous étions venus pour vivre une immersion de l'église secrète. Et à la fin, j'ai senti mon cœur pour lui, quoi. On priait pour l'église persécutée. Puis à un moment donné, c'est comme si le Seigneur me dit... Va vers lui, prie pour lui. Il en a tellement besoin. Et j'ai prié au nom de l'Assemblée, je me suis permis, c'est un collègue, hein, on se connaît bien, Et j'ai vraiment appelé la bénédiction sur son épouse, sa famille, pour que le Seigneur la visite, la guérisse. Et il a été tellement touché, tellement ému. Et ce matin, je lui ai fait un petit mot sur WhatsApp, en lui disant merci pour l'accueil, en lui disant je pense à toi et je prie pour toi, pour que ta femme soit guérie et que Dieu vous visite et vous fortifie. Ça, c'est avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est s'impliquer dans la vie de l'autre. Être sensible. Développons-nous cet intérêt les uns envers les autres. Sommes-nous impliqués dans la vie de l'autre ? Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Vous ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais mal pour le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 16, 18. Plein d'amour fraternel. 3. Accueillez le frère, l'étranger. Ce matin, Marie a dit, elle a souhaité la bienvenue à tout le monde, et elle a dit, s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ou qui ne sont pas venues depuis un certain temps, vous êtes les bienvenus. C'est ça l'amour fraternel. On s'accueille mutuellement, on se souhaite la bienvenue. Tu es bienvenu dans ce lieu de culte et de célébration pour celui qui a donné sa vie pour nous. Il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a de la dignité. Soyez donc des imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande de sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Éphésiens 5, 1, 2. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Compassion, humilité, j'arrive au bout. Ah, qu'est-ce que je vous aime, honnêtement, je suis tellement content d'être parmi vous ce matin. Compassion, être rempli d'affection pour les frères et sœurs et pour tous ceux que Dieu nous envoie sur notre chemin de vie. Je vais au supermarché, je prie intérieurement. Je me dis, si Seigneur, je dois rencontrer quelqu'un en achetant des bananes ou des pomelos, permets que je rencontre quelqu'un et que je puisse le bénir, puisse avoir quelque chose où je peux lui partager la compassion de Dieu, mon cœur pour lui. Faire une place à toutes les personnes, les amener à être acceptés, intégrés, valorisés. Vous savez, l'accueil dans une église, c'est 50% d'une personne qui reste. En tant que pasteur, j'ai toujours mis l'accent là-dessus. On peut avoir un bon message, un bon temps de louange, mais si l'accueil est médiocre, c'est le premier avis quand vous entrez dans une salle qui fait la différence. Et ce matin, quand je suis entré dans la salle, j'ai senti une bienveillance que lorsque je suis venu la dernière fois, où c'était très lourd. Et je vous l'avoue, j'étais pas très bien parce que c'était difficile pour moi d'être dans ce climat-là. Mais aujourd'hui, Jean-Luc, Laurence, Sylvain et autres, on s'est salués. Charlie à disposition, Joël, c'était magnifique. Je me suis senti chez moi. Je vais peut-être rester, hein, faites gaffe. Je continue. Alors c'est ça, cette compassion d'accueillir chacun tel qu'il est, comme il est. Pas on veut le changer, c'est Dieu qui va le changer, c'est son esprit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'avaient point de berger. Matthieu 9, 36. Le dernier, humilité. Désir de s'encourager mutuellement et de se réjouir du succès de l'autre. Ouh là là, ça, c'est pas toujours facile. Vous savez, quand vous priez et que la chose ne vient pas, et puis qu'à côté, vous avez le frère ou la sœur qui vous dit « J'ai prié et puis les choses sont arrivées, magnifique, j'ai ci, j'ai ça. » Vous dites, première réaction, tu dis « Et moi, Seigneur, t'en es où avec moi ?» Lui, oui, et puis moi alors ? Eh ben non, c'est pas comme ça. C'est « Merci Seigneur, il a trouvé un job, ça fait longtemps qu'il cherchait. Merci parce que mon frère voulait une activité, il a la retraite, il cherchait quelque chose où il voulait s'impliquer et il a trouvé gants à ses mains. Magnifique ! Je le bénis au nom de Jésus. Je bénis ce que le Seigneur fait dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et je ne le jalouse pas parce que moi, je suis encore en attente d'une réponse. Je dis merci Seigneur. Tu es à l'œuvre. Alléluia. Et mon frère en est un exemple. J'avance. Je vais aller juste ce petit verset. Ne faites rien donc par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et je termine avec cette conclusion. Toutes ces attitudes et recommandations définissent l'état de santé d'une équipe efficace et perspicace dans son service pour Dieu et pour les autres. La vie dans une communauté, c'est une affaire de cœur, mes frères et sœurs. C'est une affaire de cœur, de relations, de bienveillance, de dépendance, de confiance et surtout d'amour. Un amour qui va et vient et qui ne cesse de couler librement, c'est ce qu'on appelle l'amour circulaire. Alors je termine là. Veillons à ce que notre vie soit une preuve de sa vérité. Veillons à ce que notre vie soit une preuve de sa vérité. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Amen.